Bonsoir chers auditeurs, ce n'est pas Paul-Marie Couteau qui vous parle. Vous avez évidemment, vous n'avez pas reconnu sa belle voix pleine de caractère, de force et de séduction. C'est Pierre Lours qui, en attendant que notre Paul-Marie arrive, donc, a le plaisir d'accueillir Anne Brassier.
Bonjour. Bonjour, bonjour. Et
alors,
bonjour,
Anne,
chers, très chers auditeurs.
Anne, on est toujours content de vous trouver ou de vous retrouver. D'autant plus que dans ce monde, on ne peut plus perturber dans lequel nous vivons, où on va de la pédocriminalité à la guerre, de la guerre au déclin économique. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Il n'y a pas grand-chose, en fait, qui nous donne un petit coin de ciel bleu dans ces cieux de nuages. Vous allez pouvoir, dans cette rubrique culture que vous animez, vous allez pouvoir nous donner quelques espoirs, quelques respirations, oui. En tout cas quelques esprits. Parce qu'on n'est pas quand même dans un monde où l'esprit règne d'une manière extraordinaire.
On est prié quand même de le limiter, cet esprit. Hein. Il doit marcher sur des autoroutes et ne pas aller ni à droite ni à gauche.
Ben oui, parce que, et puis en plus, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Enfin, là, par exemple, on peut quand même parler encore d'Orwell.
On peut parler d'Orwell, absolument. Mais comme vous allez voir, le sujet a été pris par un réalisateur brillant, indiscutablement, qui s'appelle Raoul Peck. C'est un Haïtien. Il a aujourd'hui 72 ans. C'est un homme qui a quitté Haïti parce que ça devenait pas bien et qui a rejoint le Congo sous Lumumba.
Ah oui.
Donc une enfance perturbée. Et très vite, il s'est mis à s'engager politiquement. Et vous pensez bien que c'est un engagement bien à gauche. Contre la colonisation, contre les affreux blancs, contre... Et il a fait plusieurs films. Il a vécu ensuite en Allemagne, puis en Amérique. Et il a fait, parmi ses films, un film sur la jeunesse de Marx.
Oui.
Et un film sur l'un des plus célèbres photographes de l'apartheid.
Mmh.
Et là, maintenant, il est d'un certain âge et il a eu cette idée géniale de s'occuper d'Orwell.
Ah, voilà.
Et il nous campe un Orwell qui est à la fin de sa vie, parce que ce pauvre George Orwell est mort très jeune, à 46 ans, tuberculeux. Et il s'est retiré dans une île très au nord de l'Écosse, dans l'île de Juva. Et à cette île, on sent l'homme qui ne peut plus beaucoup supporter ses contemporains, parce qu'il n'y a pas plus éloigné d'eux. Alors, il faut... Notre réalisateur présente très très bien le portrait d'Orwell dans ce film, qui s'appelle donc Orwell 2 plus 2 égale 5.
Bon, tout un programme.
Tout un programme. Et... Alors, le film est très bien fait. Il y a en voix off les citations d'Orwell, qui sont toujours extraordinaires. Et puis, des jets de petites vidéos censées illustrer les propos d'Orwell.
Mais c'est des vidéos qui sont... C'est des reportages ?
Des petites vidéos d'actualité.
D'actualité,
exactement.
D'accord.
Mais d'actualité qui peuvent remonter à Staline, à Hitler... Alors, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que j'ai foncé voir le film, c'est qu'on en apprend plus sur notre Orwell, qui était, il l'a écrit, un très modeste Anglais de la classe moyenne. Mais ce qui n'était pas moyen, évidemment, c'était son intelligence. Donc, il a fait Eton, quand même.
Oui, ah oui.
Mais il est né aux Indes, où ses parents étaient. Et il a pu constater très très tôt le choc des castes et le mépris de certains sur d'autres. Comme vous le savez, les castes indiennes, mais aussi la caste anglaise qui occupait l'Angleterre. Alors, l'Inde, parce que vous savez que les anglo-saxons, qu'ils soient américains ou anglais, sont quand même les champions du mépris à l'égard de ce qui n'est pas eux, puisque c'est une race de seigneurs, tout le monde le sait, et ils sont plus forts que tout le monde.
C'est pas la même chose que le peuple sûr de lui et dominateur, mais enfin, ça y ressemble un peu.
Un petit peu, oui. C'est pour ça qu'ils s'entendent bien.
Oui, oui.
Et donc, notre George Orwell à Eton va se trouver confronté à la morgue des riches anglais. Parce qu'à Eton, il n'y a quand même que la upper class, comme on ne devrait pas le dire à Radio Courtoisie, les classes supérieures. Et lui dit, oui, j'avais jamais le costume, je ne pouvais pas rivaliser avec les autres pour ce qui était de la confection de mes costumes. Et donc c'est un homme qui va tout de suite pencher à gauche et pour le socialisme, on le comprend fort bien. Et il va d'ailleurs prendre parti pour la guerre d'Espagne.
Oui.
Et quand le Parti communiste va flinguer ses amis anarchistes du POUM,
oui.
À ce moment-là, notre ami Georges va comprendre que le socialisme, c'est pas si rose que ça. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il va prendre du recul. Alors, c'est la biographe qui parle en moi, parce qu'en fait, je n'ai pas, lu une biographie entière d'Orwell. Mais je suis Baudor. Compte tenu des citations que l'on peut trouver dans La ferme des animaux et 1984, on sent quand même un très sérieux dégoût de l'humanité et un type vraiment dégoûté de tout et du reste. Voilà.
Eh bien voilà Paul-Marie Couteau qui rentre dans une belle allure.
Bonjour ma chère Anne. Bonjour ma chère Anne. Il y a des jours comme ça qui ne vont pas du tout parce que j'ai fait. C'est le troisième enregistrement de la journée.
Ça fait beaucoup.
L'actualité s'accélérant.
Oui.
Et finalement les chaînes de réinformation, comme on dit ma chère
oui.
Anne, mon cher Pierre, comme on a dit au Courtoisie, ont beau être très liées les unes aux autres, elles ne sont pas du tout au même endroit.
Vous voudriez peut-être une centralisation.
Eh bien, écoutez, je pense que c'est un programme à mettre en œuvre. Il faudrait que.
Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment une très bonne idée, parce que regardez, par exemple,
j'aurais du sang.
Le ministère de la Défense a centralisé tous ses états-majors du côté. Là,
et ça ne marche pas ?
Du côté de Ballard.
Oui.
Écoutez, ça marche très très bien si on veut effectivement supprimer avec une seule bombe l'ensemble de ses petits camarades, vous voyez.
C'est très juste, ça. Bah, c'est...
Alors, nous faisons, mes chers amis, comme l'Iran, c'est-à-dire une défense en mosaïque. Vous savez pourquoi l'Iran est insubmersible, on le voit ces jours-ci, on le savait.
Oui.
Enfin, tout le monde le savait, sauf M. Trump,
oui.
Qui ne sait pas grand-chose. Et M. Netanyahou, qui ne sait qu'une chose, c'est... qu'Israël est l'assomption du monde et qu'il peut tout se permettre.
Absolument.
Il a Dieu avec lui. Mais tous ces gens négligent des petits éléments comme l'organisation de la défense iranienne militaire et politique en mosaïque.
Exactement.
Ah oui.
Exactement ce que vient dire Pierre Lourdes, un grand stratège qu'il est, c'est un militaire. Donc
c'est absolument. C'est très juste.
Et il ne faut pas être au même endroit.
Ben non.
Alors on peut détruire et tuer l'ayatollah. Le guide suprême, mais ça ne change rien, parce qu'il y a toujours un autre qui prend la suite.
Vous avez tout prévu.
Donc, en effet, il ne faut pas du tout se mettre au même endroit. Je viens de dire une bêtise. Mais enfin, il faudrait avoir des peut-être comme en Iran.
Des navettes.
Mais non, Anne, des souterrains.
Vous êtes de plus en plus iranien.
Je suis de plus en plus dans la résistance, ma chère. Alors, on va aller d'Omerta à TVL, DVL à Radio Courtoisie, Radio Courtoisie à GPTV. Il faudrait pouvoir avoir des petits rails en souterrain. Vous comprenez ?
Cette résistance en question, ça nous ramène à notre sujet.
Poursuivez, mon cher.
On va bientôt terminer.
Piloter.
Sur George Orwell et sur un film donc, qui a été consacré à George Orwell et à ses messages. Anne, qu'est-ce que donc ce film, vous l'avez vu il y a très peu de temps, il est toujours à l'affiche.
Alors, je l'ai vu.
Alors, il s'appelle comment d'abord ce film ?
Orwell.
Orwell.
2 et 2 égale 5.
2 et 2 égale 5, vous nous l'aviez dit.
Et alors, C'est l'intérêt de ce film, c'est de nous donner un petit aperçu de la fin de la vie d'Orwell, qui est mort à 46 ans, vous imaginez. Il était tuberculeux.
On ne le connaît pas, cet homme. Bravo,
mais justement, on ne le connaît pas. Enfin, moi, je connais 1984, qui a été ma Bible et qui m'a permis de comprendre un certain nombre de choses depuis 50 ans.
C'est la dimension prophétique des écrivains. Ils voient tout, enfin, les bons, avant les autres.
Les bons, oui, absolument, absolument. Alors...
Des exemples de ces petites phrases.
Alors, ce qu'il y a d'étonnant, terminons avec le bouquin, c'est que le Raoul Peck, donc... nous propose en voix off, et ça c'est fantastique, les citations d'Orwell, la guerre c'est la paix, 2 et 2 font 5, mais...
On voit à quel point la guerre c'est la paix d'ailleurs.
Et on la voit, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple-là. Et le problème c'est que comme le réalisateur est un haïtien qui était très engagé à gauche, il nous assomme avec une quantité de petites vidéos d'actualité politique, et on ne sait pas très bien si c'est du lard ou du cochon, et si comment cela peut illustrer, parce que tout est mélangé, si vous voulez. Le Bolloré est dans la catégorie des grands prédateurs de la presse mondiale. Le maréchal Pétain devient Hitler, tout simplement parce que les deux faisaient faire de la gymnastique à leur peuple. Que dirait-on aujourd'hui ? Donc nous sommes en tyrannie fasciste, puisque tout le monde fait de la gymnastique à part nous trois.
Ça s'appelle la résistance.
Le dimanche matin. Et si vous voulez... Alors, évidemment, il y a de bons exemples. Hein. Il y a Staline, il y a Hitler. Mais, donc, j'ai fait mon papier sur annebrassier.fr en me disant quel culot. D'ailleurs, les spectateurs disent, comme militant, il est très fort, mais comme historien, il est assez médiocre. C'est exactement l'impression qu'on peut avoir.
Un homme de gauche.
Parce qu'il s'empare de ce sujet... Et il est lui-même l'opposé de ce que dénonce...
Ou l'illustration.
Oui, c'est hallucinant. Ou l'illustration. Et puis, dans un post-scriptum, je me suis dit, mais peut-être que cet homme, qui a 72 ans, qui est donc peut-être devenu sage, nous assomme de ces vidéos pour nous faire comprendre, vous voyez... Rien n'est compréhensible, il y a trop de... Ça part dans tous les sens, et donc, voilà, il n'y a pas de message, c'est une supposition, et on ne prête qu'aux riches, et je... Mais bon, j'ai quand même terminé mon papier en disant « pitié pour le réel ». Et la citation de ça, c'est fantastique. Le concept même de vérité objective est en train de disparaître. Paix à son âme, mais je crois que c'est ce qu'on est en train de vivre.
C'est exactement ce qui se passe.
C'est pas génial, ça, non ?
Pour notre malheur, d'ailleurs. C'est exactement le résumé de la situation.
Alors, vous voulez quelques citations d'Orwell ?
On va revenir dans notre belle époque.
Vous ne vous serez pas... Oui, mais c'est...
On y est, bien entendu.
J'adore celle-là. Il est des idées d'une telle absurdité que seuls les intellectuels peuvent y croire.
Oui.
Alors, revenons...
Ça, c'est une phrase d'anglais, ça. Il n'aime pas les idées générales. Voilà.
Ouais. La liberté...
Il torpille les intellectuels.
Donc, la liberté, c'est de dire que 2 et 2 font 4. Lorsque cela est accordé, le reste suit. Le problème, c'est qu'on n'a plus le droit de le dire. Alors, ça, c'est la ferme des animaux. Tous les animaux sont égaux, mais il y a des animaux plus égaux que d'autres.
Alors, vous savez que dans la ferme des animaux, dans la traduction française,
oui.
dans la traduction anglaise, le méchant, c'est-à-dire en fait le cochon, c'est oui. un cochon qui oui, dirige oui, oui, tout, oui. Il s'appelle Napoléon.
Oui, oui,
Et
oui.
Et dans
oui.
la traduction française,
oui.
eh bien, il s'appelle Nelson.
Ça me fait penser, pardon, Anne, je peux glisser une citation de Cioran
oui,
qui me fait penser à celle que vous venez de nous dire. Il était allé au zoo et dans son journal, il dit, après tout, ils sont beaux les animaux, ils sont nobles, ils sont dignes, chacun a a son monde et a son élégance, à l'exception des singes, car on commence à sentir l'homme.
Excellent.
Ah, il faut rire dans ces temps troublés.
Mais vous savez que j'ai découvert sur Internet un site qui s'appelle Sérénité Chantée. Il y a des très belles voix masculines qui chantent les psaumes, les 150 psaumes. J'avoue mon ignorance, je n'ai jamais beaucoup plongé dans ces psaumes. Mais la voix est fantastique, je vous conseille, ça vous calme tout de suite, ça vous transporte dans un autre monde. Et dans un psaume, je ne sais plus lequel, il y a « Ô éternel, que l'homme ne triomphe pas ». C'est quand même inouï. « Ô éternel, que l'homme ne triomphe pas ». C'est quand même... les psaumes, ça date, hein.
Et c'est beau, hein.
C'est comme là, on est en train de voir.
Qu'est-ce qui doit triompher, Anne, d'ailleurs, alors?
Je sais pas, l'âme et Dieu, et la point barre, le créateur, mais non pas la créature.
La nature.
Oui, enfin, la nature. Oui, bien sûr, la nature.
Fond, mais... oui, c'est ça. Et la loi naturelle.
Et la loi naturelle.
Bon, alors poursuivez ces citations, Cide Conquille.
Oui, il ne faut pas éduquer les enfants à se conformer au monde. Il faut les en préserver au maximum. Je trouve ça fantastique aussi. Et voilà.
Préserver, et préserver le monde des enfants, mais c'est autre chose.
Oui, absolument. Et puis, ne voyez-vous pas que le véritable but de la novlangue est de restreindre les limites de la pensée? À la fin, nous rendrons impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés par un seul mot, dont le sens sera rigoureusement délimité. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées et oubliées. C'est quand même... Chaque année, de moins en moins de mots et le champ de la conscience de plus en plus restreint. C'est quand même fabuleux, non?
La question des mots n'est pas secondaire, certes.
C'est... bien sûr. Je crois que vous avez dit un jour « L'esclave parle la langue du maître ».
Ah oui, c'est une de mes formules.
Voilà, et je la répète...
Aux gens qui parlent... merci.
Je la répète sans arrêt.
Qui parlent anglais et franglais, je leur dis, vous savez, faites attention. Parler la langue du maître, c'est le signe de l'esclave.
Et puis, il y a un autre frère d'Orwell. Ils ont vécu à peu près en même temps. C'est un écrivain colombien qui est Nicolas Gomez d'Arcos. Nicolas Gomez d'Avila. Et il a... écrit ses petites citations toute sa vie, c'est de Colombie. Et alors, cette idée qui va vous plaire, les idées de moins de 1000 ans ne sont pas totalement fiables.
Oh, écoutez, pour le nouveau conservateur, ça devrait être mis en exergue
oui,
chaque
je
numéro.
Pense, oui, chère, je pense.
En honneur à Brassier, nous allons...
Alors, changer.
Retenez-nous cette phrase, elle est magnifique.
Les idées de moins de 1000 ans ne sont pas totalement fiables.
Mais oui, mais vous savez, c'est la définition de l'esprit conservateur. Ça ne consiste pas à défendre de vieilles idées, mais à défendre les idées éternelles.
Bien sûr.
Et des idées éternelles qui ont été filtrées.
Au moins durables.
Qui ont été filtrées, justement, par le temps.
Par l'expérience.
Et donc par la tradition.
Bien mais mes chers amis, comme nous sommes d'accord.
Oui, ça c'est pas une
Alors,
faille entre nous.
L'actualité ne doit pas nous diviser, mon cher Pierre.
Donc, l'actualité, c'est plein de choses, et c'est notamment la guerre.
Oui.
C'est la guerre en Iran, en Israël et au Moyen-Orient. Et il y a quelque chose qu'on peut savoir, qu'on sait concernant ces périodes de guerre, c'est qu'on ne sait pas grand-chose.
Ah.
C'est que c'est très difficile de connaître la réalité des faits, de ce qui se passe. Quand j'étais au ministère de la Défense, dans un organisme de communication, on avait suivi, lors de la deuxième guerre du Golfe, guerre à laquelle nous n'avons pas participé, on avait suivi un petit peu le travail des journalistes pour voir comment ils se débrouillaient.
Celle de 2003.
Voilà. Et en fait,
hélas, on a participé à celle de 91.
Oui, et bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on avait constaté? On avait constaté qu'il y avait trois sortes de journalistes. Il y avait les journalistes qui, évidemment, ne quittaient pas leur micro ou leur rédaction et qui faisaient quand même leurs articles ou leurs chroniques et qui le faisaient, évidemment, en s'appuyant sur, grosso modo, les agences de presse, qui, elles, sont quand même, si on regarde l'agence France-Presse, bien cornaquées par le pouvoir. Donc, ces journalistes-là, ils ne nous apprenaient pas grand-chose, si ce n'est que la doxa. Si ce n'est le conformisme qu'il fallait afficher. Il y avait aussi les journalistes qui étaient, comme disent les Américains, « embedded », embarqués. C'est-à-dire que le ministère de la Défense, les différents régiments pouvaient prendre un ou deux journalistes avec eux, ils leur mettaient un casque sur la tête, un treillis, etc., et ils les emmenaient sur le terrain. Et en fait, là aussi, ils ne voyaient évidemment que ce qu'on voulait leur faire voir. En fait, ils n'étaient pas embarqués, ils étaient embrigadés, en fait, on aurait dû dire. Bon. Et puis alors, il y avait une troisième catégorie de journalistes, alors, je vous rassure, excessivement rares, qui étaient les journalistes indépendants, qui allaient sur le terrain à leurs risques et périls, qui se rencontraient, bien sûr, des indigènes pour soit permettre les traductions, soit tout simplement avoir des connexions avec le terrain. Et cela faisait leur papier, leur enquête, et il y avait une chance que cette vérité, que leur vérité, arrive jusqu'au lecteur ou à l'auditeur, si les rédactions voulaient bien acheter leur papier, leur travail.
Si elles pouvaient les publier sans faire ombrage à leurs annonceurs publicitaires.
Exactement.
C'est-à-dire les grandes entreprises de ce monde.
Donc, en fin de compte, on ne sait pas vraiment pas grand-chose.
Oui, alors ça va mieux, Pierre, quand même. Parce que, d'abord, il y a une autre catégorie, c'est ceux qui sont, comme nous, le cul sur leur chaise, mais qui voyons, il faut s'informer avec assiduité, savoir ce que l'on prend comme information, ce que l'on ne prend pas, recouper, et puis faire un tableau général. Et par déduction, on apprend beaucoup de choses.
Grâce aux réseaux sociaux.
Alors, grâce notamment aux réseaux sociaux. Vous avez tout à fait raison, vous y êtes, mon cher.
C'est ce qui a changé.
Je ne sais pas si Anne est sur X.
Non, je lis beaucoup X parce que c'est en effet, on y voit beaucoup de choses.
Alors moi, je regarde beaucoup et je participe. Ça fait quand même deux fois, prenons un petit fait par exemple, deux fois que je vois des images. Alors, faut-il croire qu'elles sont truquées, mais enfin... D'après l'auteur de ce qu'on appelait des tweets, ça m'a l'air assez sérieux, des bousculades. Alors la première fois, c'est une bousculade, et dans une autre petite vidéo, c'est des interventions de la police à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv.
Oui, oui, ils s'en vont.
Ils s'en vont.
Bien sûr, oui. Voilà. Et on va les accueillir.
Je crois que c'est la semaine dernière que je disais, mais peut-être au micro de l'abbé de Tannoy, je ne sais plus, il faut que j'arrête avec les micros, moi, parce que je ne sais plus ce que je dis et où.
Vous dites la même chose.
De... Je ne me contredis pas, mais en fait, je risque de me répéter, ma chère Anne.
Ce n'est pas grave. Les bonnes idées doivent être répétées.
Une université de Tel Aviv, justement, une démographie, à un département chargé des enquêtes d'opinion, qui a déterminé que 27% des habitants d'Israël veulent quitter Israël.
Énorme.
Et chez les moins de 30 ans, c'est 52%.
Mais oui.
Quel est l'avenir d'un pays où, outre sa situation géopolitique, je veux bien le croire, n'est pas commode, et s'est employé d'ailleurs à envenimer sa propre situation géographique, puisqu'Israël, depuis sa nouveauté, échappé. Depuis qu'Israël est Israël, tous les pays qui l'entourent sont détruits. Alors ça a été le Liban dans les années 80, l'Irak dans les années 90 et
ça continue.
Suivante. Mmh. Ça a été la Syrie, Liban. Ça a été la Libye. Bon. Sauf, il y avait trois pays qui étaient épargnés plus ou moins. L'un parce qu'il était puissant, c'est l'Iran pendant longtemps, maintenant c'est fini. La Jordanie parce qu'elle est totalement sous contrôle. Et ne parlons pas du peuple palestinien qui lui est fait partie aussi du saccage. Observons d'ailleurs que ces guerres n'ont pas vraiment d'autres buts, comme celle d'Iran, elle n'a pas tellement d'autres buts. Remplacer Khomeini ou Khamenei par un autre, ça ne change pas grand-chose.
Le pétrole aussi, non? C'est pas un petit mobile?
Les compagnies américaines contrôlent le pétrole. Je ne vois pas ce qu'il y a. Non, il n'y a
pas
de but.
Le pétrole en Iran.
Non. Je
ne
pense pas que le pétrole... Ça, c'est une lecture marxiste et matérialiste que je m'étonne de trouver dans votre bouche, ma chère amie.
Je suis un brin marxiste.
Il faut savoir ce qu'est Israël. C'est vraiment un pays théocratique qui poursuit une lubie. Bon, alors il y avait pendant longtemps des générations plus laïques qui ont donné le change. Mais en fait, le but qui maintenant apparaît au grand jour, c'est de recréer un état mythique qui est le grand Israël. Bon, c'est-à-dire, ça a quelque chose. Ça dépasse de beaucoup les préoccupations, genre approvisionnement pétrolier. Le but, c'est de détruire tout ce qui entoure pour pouvoir prendre la place. Bon. Avec des buts de guerre encore incertains, parce que la destruction, ça ne suffit pas. Vous savez, c'est pas malin, nécessairement, de renverser un chef suprême comme Khamenei pour en mettre un plus acariâtre, son fils, oui. Nettement plus extrémiste. Oui, oui. Parce qu'on sait très bien, c'est comme pour le Hamas, on sait très bien qu'il y en aura d'autres, plus décapités, mais d'autres viendront, que l'on ne connaît pas, qui sont plus inventifs, plus jeunes, plus aguerris, qui sont pires. C'est la police britannique qui disait qu'elle avait repéré tous les chefs de l'IRA, connaissant parfaitement leur manière de vivre, leur emploi du temps, etc., mais qu'elle, surtout, elle ne les supprimait pas, parce qu'elle savait très bien qu'en les supprimant, il y en aurait d'autres à leur place, qu'ils ne connaîtraient pas et qu'ils ne pourront donc pas contrôler. Bon, ça, c'est la subtilité britannique.
Ouais.
Mais les Américains ne sont pas du tout comme ça, les Israéliens encore moins. Ouais. On tape. Pareil, en Afghanistan, à quoi a servi cette guerre, si ce n'est à faire des milliers et milliers de morts, dont certains Français, d'ailleurs. Il n'y avait pas de but de guerre, il n'y a pas d'utilité à avoir fait la... Et on a remis les talibans comme par devant, en détruisant les pays, etc. Ça, c'est la sauvagerie anglo-saxonne. C'est notre drame, d'ailleurs. C'est qu'on a affaire à deux messianismes. Le messianisme des États-Unis et de la manifeste destinée, c'est-à-dire manifestement destinée à mener le monde, dans un espèce de délire millénariste. C'est même pas du messianisme. Le messianisme, ça prétend trouver un messie qui sauvera le monde. Mmh. Le millénarisme, c'est pour notre propre société, pendant un millénaire, assurer la suprématie et la joie de vivre. Mais c'est beaucoup plus égoïste que le messianisme, le millénarisme. Et l'autre millénarisme, qui n'est pas un messianisme, encore une fois, parce que le peuple juif ne veut pas sauver la planète, mais la dominer parce qu'il est élu, ces deux millénarismes conjugués créent la situation dans laquelle nous sommes, parce qu'avec Trump et Netanyahou, elles ont trouvé leur chantre décomplexé, comment peut-on dire, pire que décomplexé, désinhibé. Désinhibé, merci, et ça va aux extrêmes. Alors j'en reviens à ce que je disais initialement sur la réalité que l'on peut tout de même apercevoir, là je contredis un peu mon vieil et indispensable ami Pierre. On est dans le brouillard, mais on voit certaines choses. Ces scènes à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, elles sont incroyablement parlantes. Le chiffre de l'université de démographie de Tel Aviv, c'est très parlant. C'est tellement parlant qu'on se demande combien de temps Israël va tenir. Alors non seulement il s'est rendu d'autant plus vulnérable qu'il n'a pas du tout réussi à s'insérer, comme le voulait un rabbin, comme l'ont voulu les accords d'Abraham, et certaines tentations de médiation avec des intellectuels comme Boalem Sansal à Genève, etc., visant par l'économie à insérer Israël dans un tissu proche-oriental où Israël aurait eu son rôle parmi d'autres pays, mais en s'insérant. Bon, non, ça a été le messianisme, ça a été la volonté de dominer, ça a été cette affirmation d'un peuple sûr de lui et dominateur, c'est pas moi qui le dis, c'est désormais une évidence, c'est un de vos amis, ma chère Anne, je ne peux pas manquer d'appeler,
de le souligner,
de rappeler,
vous avez raison.
Quand je vois Anne Brassy, je ne peux pas manquer de faire référence à la présence extraordinaire
cette
de
phrase,
général
j'avoue,
de Gaulle.
Cette phrase, j'avoue,
bon.
Ça, oui, cette
et bien,
phrase
voilà, c'est
assez exact.
C'est à partir du moment où Israël se met dans cette situation, fait la guerre, la reçoit, et où sa population, qui commence à en avoir assez,
s'en va,
9,5 millions d'habitants, il paraît qu'il y a près d'un million qui sont déjà partis depuis le 7 octobre, parce qu'il y a eu un peu plus d'un millier de morts israéliens quand même, il y en a eu beaucoup plus dans les côtés à Gaza, bien entendu, les Palestiniens et chrétiens d'ailleurs, mais il y a eu aussi une partie de la population qui souffre et qui s'en va. S'il y a encore un million d'Israéliens qui partent, et encore un million, surtout les plus jeunes, les 9 millions vont devenir incapables de se défendre autrement que par l'arme atomique.
Plus le problème démographique.
Et plus en plus une sorte d'anémie démographique qui est tout simplement dans l'absence d'avenir. Bon. Et ça, moi je veux bien défendre Israël, je reconnais que la France a participé à la création d'Israël, donc nous autres Français, nous avons une sorte de devoir moral de faire en sorte que ce peuple puisse vivre, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre un peuple qui se suicide,
voilà,
et qui se vide de sa population et qui en même temps vit sur des illusions? Jacques Beau, que vous connaissez peut-être très bien, je vous invite à la regarder, elle fait près de deux heures, une analyse formidable délivrée sur Internet par ce personnage qui est un ancien des renseignements suisses, mais qui est surtout un personnage doté d'une lucidité extraordinaire, qui avait déjà dit beaucoup de choses intéressantes sur l'Ukraine, et qui réanalyse en distinguant, je réponds toujours à Pierre, les mensonges, la propagande qui sont ahurissantes, mais sous la propagande, Pierre, on peut chercher des vérités.
Bien sûr, il faut être prudent.
Oui, c'est ça, il faut être prudent, mais il faut les recouper toujours et voir le tableau d'ensemble qui se dessine. Jacques Bou disait que la grande arme d'Israël, une des armes d'Israël, bon, la première, elle l'a perdue, c'est la compassion générale après la Shoah. Bon, ça, elle l'a perdue par son attitude qui a été comparée par beaucoup.
L'inversion des rôles.
Oui, à la souffrance qu'elle a subie. Mais c'est fréquent dans la pauvre humanité souffrante, on fait souffrir à proportion de ce qu'on a souffert soi-même, si on ne se retient pas. Mais surtout, l'arme majeure d'Israël, c'était ce bouclier de défense. C'était cette fameuse...
Dôme de fer.
Ce fameux dôme de fer, je cherchais le mot, qui était imprenable. Il ne l'est plus.
Mais non.
Alors, il est imprenable selon les doses de missiles qui vous tombent dessus, selon...
Et la qualité
le type, voilà. Le type, en effet, hein, le type de missile qui arrive. Mais depuis 10 jours, le nombre de missiles iraniens qu'ils avaient par devers eux est tel...
Mais les nouvelles armes sont...
Que le dôme de fer... Alors d'autant qu'il y a des missiles balistiques, il y a des missiles à longue portée, il y a des charges emportées par des drones, et puis il y a maintenant la menace de l'arme que maîtrise la Russie, que la Russie a vraisemblablement déléguée à l'Iran, c'est-à-dire supersonique.
Hypersonique.
C'est-à-dire que c'est une espèce de conjonction de missiles qui s'abat sur ce dôme de fer, que le dôme de fer n'est plus en mesure de contrôler à cause du type, de la diversité et du nombre de missiles reçus. Si bien que je crois que c'est condamné en Israël, maintenant. On ne peut pas... un Israélien qui dit la vérité est passible des tribunaux immédiatement,
paraît-il. Il y a une interdiction de dire... toute photo et de toute vidéo.
C'est ça, voilà.
Toute vidéo.
C'est ça. Donc on ne peut pas savoir. Mais quand on voit ces images de l'aéroport Ben Gurion, on déduit quand même.
Oui, oui.
Il n'y a pas besoin de s'appeler Sherlock Holmes ou l'inspecteur Maigret pour deviner.
Mais on ne sait même pas si Netanyahou est vivant.
Le commissaire Maigret, pardon.
Oui, alors.
Et on ne sait même pas, on a raison, si le. Alors il paraît qu'il serait en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Parce que l'Allemagne...
Mais alors, effectivement, malgré cette interdiction qui empêche évidemment les gens qui sont en Israël de divulguer des photos ou des vidéos de ce qui se passe et des impacts des différentes armes iraniennes, en fait, il y en a quand même qui passent. Et sur X, par exemple, vous pouvez voir assez facilement, même très facilement, ce qui se passe réellement, ou en tout cas... Il faut faire attention parce que parfois, ce sont des vidéos qui datent d'un an, qui sont reprises et qui sont présentées comme si c'était des vidéos de maintenant. Donc, il faut là aussi être très prudent.
Oui.
Mais néanmoins, quand vous êtes sur X, dès le moment où vous voyez une vidéo, vous regardez qui l'a mis en ligne.
Oui.
Et si vous voulez, c'est très important de savoir la crédibilité. Vous pouvez connaître un peu la crédibilité de la vidéo, du texte, en fonction de l'auteur, en quelque sorte.
Par exemple, si vous voyez un truc marqué CNews, vous êtes sûr que c'est faux. Vous êtes sûr que c'est de la propagande. Ça, CNews, c'est faux du début à la fin. D'ailleurs, j'ai vraiment une dent contre mes pauvres amis. Bon, ils savent pas ce qu'ils font, d'ailleurs. Qui collaborent à CNews. Il y a des jeunes filles ou des jeunes gens qui parlent, qui n'ont absolument aucune formation, qui n'ont jamais travaillé dans une ambassade, qui n'ont aucune formation ni historique, ni géopolitique, ni diplomatique, rien, mais qui dégoissent. Des petits jeunes, comme ça, vous voyez ce que je veux dire, mais certains ont été, ou sont toujours mes amis. Il y en a un qui est beaucoup moins jeune, qui est Philippe de Villiers, à qui je regarde le chien de ma chienne pour ce qu'il a dit vendredi dernier.
Qu'est-ce qu'il a dit vendredi dernier?
Exactement le contraire de ce qu'il pense. Parce que moi, je connais bien mon Philippe de Villiers.
Oui.
Je sais ce qu'il pense.
Oui.
Et ben, c'était tout le contraire.
Alors, dites-nous. Dites-nous. Alors.
Sur Israël, c'était tout le contraire.
Et
je peux pas en dire plus. J'ai trop d'affection pour lui.
Ça a choqué quand même beaucoup de monde.
Mais c'est effrayant, la soupe que Philippe de Villiers a servie à Bolloré, pour commencer.
Oui, non, c'est...
À Israël, aux États-Unis, lui qui a écrit le 51e, j'en sais quelque chose, puisque j'avais aidé à l'écrire en son temps, le 51e, la 51e étoile sur le drapeau américain, c'est-à-dire un livre très violent contre l'intoxication de la culture américaine et l'occupation américaine, il dit exactement le contraire. Mais bon, ça, c'est amusant. C'est fermement en parenthèse sur ces news, faites tout ce que vous voulez, regardez les sites de Pierre Lours, tout au moins les comptes de Pierre Lours.
Ah oui, vous pouvez aller voir sur Twitter, vous tapez Liberté.
Et vous en apprendrez beaucoup plus que sur ces news.
Voilà, vous avez une sélection de tweets.
Elle est très bien faite, Pierre. Elle est très bien faite, votre compte Twitter.
Elle est très cognante, elle est très juste, elle est très...
Et voilà, il ne faut pas désespérer de connaître un peu la réalité. Il y a des vérités qui paraissent et qui en disent long.
Et par exemple aussi, par exemple sur Twitter, notamment, vous pouvez vous rendre compte de ce qu'est réellement l'Iran. Parce que si vous écoutez sur les grandes chaînes et qui nous ligotent,
l'Iran... C'est nous compris, je répète.
Toutes les femmes sont enchaînées à la cave, voilées. Voilà. Alors qu'il y a 60% dans toutes les professions dites supérieures,
de femmes,
médecins, professeurs,
de femmes,
chercheurs,
même d'ingénieurs,
sont des femmes.
Et c'est le pays qui produit le plus grand nombre d'ingénieurs par habitant au monde.
Oui, et oui, bah on voit le résultat.
Ils savent de quoi ils... C'est incroyable. Non, c'est... Et ça, c'est le mépris général de ce qu'on appelait, j'espère qu'on appellera plus jeune, mais quiconque de ce nom, en tous les cas, pas la France, l'Occident, pour tout le reste du monde.
Oui.
Ils ont tellement méprisé le reste du monde.
Oui, oui.
L'armée d'ingénieurs indiens est en train de façonner un autre monde.
Absolument.
Les Chinois. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que, de toute façon, s'il n'est de richesse que d'hommes, comme disait Jean Bodin, le théoricien du souverainisme, un personnage important du XVIe siècle, nous ne sommes même plus européens, 450 millions, États-Unis, Canada, ajoutés, nous sommes même plus 800 millions. Alors qu'il y a 8 milliards et demi d'habitants. Nous ne sommes même plus, à nous tous, ce qu'on appelle la communauté internationale pompeusement, c'est même pas 10% de la population du monde.
Et mépriser les autres n'est jamais un moyen.
Et le mépris est une façon excellente de prendre un gadin, ce qui se passe sous nos yeux.
Plus qu'un gadin, une baffe.
Et non seulement il y a cette quantité démographique qui n'est plus en notre faveur, mais il faut regarder aussi la qualité de la démographie que nous avons.
Avec des peuples à la chie, pour les États-Unis, croupissants sous les maladies, les folies, les drogues, la graisse, etc.
Bah, notamment dans l'armée américaine. Ils ont des gros problèmes de recrutement.
Bravo.
Et si vous voulez, si vous comparez l'armée américaine avec l'armée iranienne.
Oui.
J'ai franchement l'impression
c'est
que d'un
pas
côté,
sûr que...
il y a quand même plus de niaques que de l'autre.
Oui, il y a plus de niaques, ils se défendent d'abord, et en plus, ils sortent de périodes d'humiliation terribles, parce qu'ils ont essuyé le chat qui a été mis en place contre Mossadegh par les États-Unis, dans des conditions terribles, et qui s'est défendu avec une police terrible. Ensuite, on leur a fourré, si je puis dire, fourgué les ayatollahs. Je ne suis pas sûr que ça rencontre l'assentiment de la majorité de la population, mais plus on leur tape dessus, plus les ayatollahs et ce pouvoir religieux est fondé à se dire légitime et qui a beaucoup évolué.
Il faut quand même dire. C'est quand même des grands mesurés.
Mais, écoutez un discours de Khamenei, défunt Khamenei, ce sont des paroles de paix.
Absolument.
Je vous signale que Khamenei, dont on était content d'avoir le scalp, a interdit par une fatwa de 2007, et heureusement, l'arme atomique.
L'Iran a renoncé
à l'arme atomique pour des raisons morales.
Son fils vient de revenir sur cette interdiction.
Il n'est pas impossible. Et comme ils sont au seuil, comme disait le général Gallois, qui a beaucoup officié dans ce studio, ils sont au seuil, mais ils peuvent y rester longtemps. Mais en quelques mois, ils développent l'arme atomique s'ils le décident. Pour l'instant, ils ont décidé de ne pas l'utiliser parce qu'elle était impie.
C'est-à-dire
le degré de moralité de peuple que l'on juge barbare, alors que nous sommes d'une barbarie telle. Je voudrais au moins citer un exemple. Ce petit bateau. Il n'était pas un petit bateau, parce qu'il y avait plusieurs centaines de personnes iraniens qui allaient participer. 150, c'est ça. Bravo. Mais vous savez tout, Pierre. Vous êtes...
Voilà.
qui allaient participer en Inde à une cérémonie commémorative commune, qui a été coulée par un avion américain.
Alors que c'était un bateau qui n'était pas armé.
Il n'était pas armé du tout.
Il était allé à
bateau de
guerre.
Je ne sais pas si par un autre bateau ou par un avion, je ne sais pas, ou d'autres bateaux.
Un sous-marin, je crois.
Bon. Eh bien, c'est toujours Jacques Beau qui raconte ça. C'est très troublant du point de vue de la morale. Et les questions redeviennent très morales. Ce bateau a été coulé et les sous-marins, en effet, états-uniens qui étaient dans les parages, ont manqué aux lois de la guerre, ne sont pas allés les repêcher.
Oui,
ne sont pas allés les repêcher. Alors que je signale que les Allemands, et ça c'était une règle de l'amiral Tirpitz, les Allemands qui coulaient des bateaux anglais ou américains pendant la guerre,
devaient aller rechercher
ceux qui étaient coulés et qui étaient à l'eau. Voilà une loi de la guerre que la sauvagerie états-unienne, je ne dis pas américain parce que je ne vais pas embarquer le Brésil, le Chili, etc. dans cette barbarie états-unienne, WASP, Yankee, c'est quand même une rupture dans la civilisation.
Bah, il n'y a plus de morale.
Mais voilà. C'est ce qu'a dit le Rahimini, justement. Stéphanie Bignon, que vous connaissez un peu, a donné une interview sur GPTV dans laquelle elle raconte. Elle est allée trois semaines en Iran et elle n'a pas rencontré le guide suprême, mais tous ses conseillers. Et elle explique qu'il a refusé la bombe atomique et il a dit « Mais la bombe atomique vous a protégé de toute la décadence occidentale ?»
Et justement pas.
Non. Donc ce n'est pas la peine.
C'est incroyable.
C'est étonnant comme phrase.
On vit nos dernières heures en tant qu'Occident.
Ouais. Absolument. Et deuxième chose étonnante, il est resté, il aurait pu aller se mettre dans un bunker, dans un tunnel,
il a quitté.
Et il a dit non, il n'y a pas d'abri anti-atomique pour tout mon peuple, je resterai là.
Mais, c'est un peu comme le maréchal Pétain.
Oui.
Qui a voulu rester avec les Français. Mais c'est
absolument.
Vrai, je rigole, mais on est dans la même logique.
Absolument.
Hein, mais enfin, il ne risquait pas de bombes tirées depuis Berlin ou Stuttgart.
C'était beaucoup moins dangereux.
Alors, mes chers amis, je suis vraiment très heureux de cette conversation. Nous pourrions parler tous les trois longtemps encore. Je vois que Anne est très au courant des choses. Pierre, il faut le suivre sur son compte Twitter si vous voulez en savoir un peu plus que ce que l'on vous raconte toute la journée. Regardez les instruments de réinformation, j'en ai cité quelques-uns. Radio Courtoisie, notre vaisseau amiral, vous réinforme. Et puis, bouchez-vous les oreilles quand vous écoutez quelque chose qui est manifestement le fruit d'une propagande dominante, mais déclinante en même temps. Alors, il nous reste, hélas, un petit quart d'heure, pas plus, car j'ai demandé de écouter 2 minutes de musique, mais à peine, après un Bobino, et j'ai demandé à un avocat de Strasbourg, qui est avec nous au téléphone, Guylain Benessa, de nous parler de son dernier livre. Il va le faire par téléphone, mais un jour, il me l'a promis, il viendra en chair en os, en studio. Ça s'appelle « Nos vrais maîtres », et c'est un livre qui décoiffe.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Hélas, il faut que je demande à Benoît, faisant des gestes kabbalistiques et incertains, de couper cette musique. C'était celle que nous avons entendue déjà mercredi dernier, mais elle a suscité beaucoup de commentaires, m'a demandé de redire de quoi il s'agissait. Elle est divine, elle est vraiment divine. Et pour ces temps de carême, rappelons-le, nous sommes enjoints d'élever notre âme. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, car je suis très bavard, tout le monde le sait, ce matin à 7h30 à la messe, à la messe du matin à Saint-Germain-des-Prés, 7h30, n'y a pas toujours du monde. Il faut dire que le mercredi, elle est dite en latin. Il y avait 50 personnes, ce qui est rare. D'habitude, c'est 10 ou 15. Je ne vais pas tous les jours. Et j'étais le plus vieux. Qui l'eût cru ? Très souvent, j'étais le plus jeune, il faut dire, il y a 20 ans. Mais maintenant, j'étais le plus vieux. Le prêtre avait 35 ans. Et presque tous, il y avait peut-être une dame qui devait avoir presque mon âge, 50 ans. Mais elle était quand même plus jeune. Mais c'est extraordinaire de voir une messe en latin à Saint-Germain-des-Prés en mars 2026, pleine de jeunes.
Et vous allez voir les baptêmes.
J'aurais jamais cru ça.
Vous allez voir le nombre de baptêmes.
Et on annonce de belles Pâques. Cette musique, c'est Handel, ode en l'honneur de l'anniversaire de la reine Anne, source éternelle de lumière divine.
Merci.
C'est François Asselineau qui avait complété le titre la semaine dernière. Et comme on me l'a demandé de nouveau, j'ai demandé à notre cher Benoît, qui réalise merveilleusement cette émission avec une complicité qui ne cesse de croître au fil des siècles, nous avons de nouveau écouté cette musique. Et c'est une bonne chose dans ces temps tellement troublés d'écouter une musique qui élève l'âme. Cher Guilain Benassa, vous allez m'en vouloir de t'en parler. Vous êtes avec nous ?
Bonjour monsieur, je suis tout à fait là.
Bon, alors écoutez, on a bien dit que c'était un apéritif, vous m'avez bien promis un jour de venir, mais c'est pas très commode pour un écrivain qui en plus est inscrit au barreau à Strasbourg, d'être facilement disponible. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'Union Européenne », qui m'a un peu bouleversé, parce que, je vais vous dire, j'en ai lu tellement sur l'Union Européenne, et depuis longtemps, j'en ai même commis moi-même, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter ? Eh bien, vous en ajoutez. Alors, vous avez fait plusieurs livres, déjà un livre sur « Mettez en cause le totem de l'état de droit » en 21. Vous avez écrit un autre ouvrage en 23 sur le référendum. Bref, vous êtes un politiste qui peu à peu s'impose sur la scène intellectuelle. Pourquoi êtes-vous revenu sur l'Europe, cher Guilain Benassa ?
Écoutez, raison. En fait, la raison est très simple, beaucoup plus que je l'imaginais moi-même. C'est que j'ai commencé à farfouiller sur les. Oui, je cherchais finalement à comprendre pourquoi toutes ces normes qui nous entravent ont-elles été faites par qui surtout et dans quelles conditions. C'est-à-dire que j'ai tendance à croire qu'on se dit toujours que crime il y a. Vous voyez, l'Union européenne, si crime il y a, c'est que l'Union européenne nous empêche de faire, d'agir dans tous les domaines. Mais que par contre, il y a une question centrale qui est constamment évacuée, notamment par les juristes, les politistes, les spécialistes, les chercheurs, etc. C'est qui sont les gens qui ont rédigé, qui ont tenu, si vous voulez, le pistolet pour faire le crime, pour perpétrer le crime. C'est-à-dire, comment identifier ces gens, qui sont-ils ? Et j'ai commencé à farfouiller par des lectures spontanées. Vous savez, vous prenez votre... Je suis encore un homme de papier, vous voyez, je n'ai pas du tout basculé dans le numérique.
Bravo. Donc
j'ai fait une somme d'impressions, de lectures, etc. Et je me dis, mais il y a des trous infinis quant à décrypter, trouver et dénicher la biographie de ces gens et à voir de quel cercle ils sont. Quelle est cette petite mafia, vous voyez, qui a engendré toutes ces normes, ces principes de primauté, l'instinct de la souveraineté, etc. Et ce qui m'a frappé, c'est que...
Vous décrivez une mafia, une véritable mafia avec des gens dont on n'a jamais entendu parler, mais qui jouent un rôle énorme. Comment s'appelle-t-il ? J'ai oublié le nom de ce personnage qui...
Alors,
après
Maurice
l'affaire
Lagrange,
de l'IVG, Adolphe Touffet.
Adolphe Touffet, absolument. Adolphe Touffet, un ex-footballeur international reconverti en juge de la Cour de cassation, qui va être lui-même qui est lui-même l'assistant du futur président de la Cour de justice de l'Europe. Donc on a des gens, en fait, des personnalités, des figures
totalement inconnues, mais qui ont un rôle
totalement
énorme.
Inconnues, qui ont un rôle infini. En fait, qui sont pour moi les vrais maîtres, parce que c'est eux qui ont usiné les règles, les concepts, les normes, qui ont permis ensuite aux politiques d'avancer toujours plus avant, expliquant lors de Maastricht qu'il y aura la grande révolution de la citoyenneté européenne, qu'il y aura la monnaie, etc. En fait, tout ce qu'on a fait dans les traités, c'est parce que ces traités ont été préparés par des juristes, des hommes de loi, des hommes de droit, en quelque sorte, qui ont fabriqué les armes.
Des 100 grades et des 100 grammes. Alors, ce tout fait, bon, on n'a pas le temps de lui régler son compte, mais c'est une histoire extraordinaire. D'autant qu'il intervient à un moment particulièrement crucial, on peut dire. C'est le moment de 1976. Il contrecarre, au fond, l'appel de conscience d'un très grand nombre de parlementaires à propos de la loi Veil. Eh ben, c'est ce petit bonhomme qui tord le droit de telle sorte que on fait taire toute instance d'appel, notamment le Conseil constitutionnel, qui pouvait vouloir dire quelque chose à ce moment-là, au nom de l'Europe. Eh bien, la loi Veil passe muscade, voilà, grâce à ça. Mais Touffet est un parmi d'autres. Il y a quelque chose qui m'inquiète. Et alors là, je vous poserai la question. Quand vous serez devant moi, Guylain Benassa, et nous parlerons aussi des autres livres. Vous m'en avez d'ailleurs envoyé certains. Je n'ai même pas eu la politesse de vous remercier, mais j'espère me rattraper. À la fin, vous écrivez « Jean Monnet a vaincu ». En 2025, son nom s'étale sur les collèges et lycées, sans parler des centaines de rues, places et salles municipales à sa gloire. Le père de l'Europe a cimenté son mythe. Notre jeunesse a même oublié qu'il y avait eu en France une France avant, une France qui décidait seule, battait sa monnaie, levait ses couleurs, choisissait ses alliances, tiens, se souciait des siens avec le reste du monde. Monnet a eu un rôle énorme et il a vaincu. Est-ce qu'il a vaincu ?
Alors, tout l'enjeu de notre période, c'est que formellement, il a vaincu. Je m'explique, formellement, c'est que, vous savez, ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois qu'on a une loi, une décision gouvernementale, quelle qu'elle soit, qui a vocation à réformer quoi que ce soit, l'immigration, la libre circulation, les échanges, le commerce, l'économie, etc., peu importe, chaque fois, on nous dit, on peut rien faire parce qu'on a une espèce de succession de juges et d'organismes internationaux, on va dire, qui décident pour nous et qui nous entravent. Donc, d'une certaine manière, Monnet a réussi. J'allais dire, il a réussi à faire basculer l'histoire dans un monde dans lequel les nations ont disparu et où l'Europe décide en lieu et place des peuples et des gouvernements, en quelque sorte. Alors, maintenant, là où je vous réponds clairement, là où il y a une vraie limite à cela, c'est que, selon moi, et c'est ce que je montre dans le livre, je crois, c'est qu'en fait, Monnet, qui a su former ou attirer à lui tous les petits stratèges qui ont pris la main, ont conçu un monde qui, en même temps, s'est imposé, mais qui, en s'imposant, nous suicide petit à petit. C'est-à-dire qui a imposé un monde qui est suicidaire dans la mesure où sans la souveraineté, il n'y a plus de liberté. Sans la liberté, il ne reste plus grand-chose de peuples qui sont voués, en fait, selon moi, au cercueil à suivre cette voie. Mais quand bien même c'est un cercueil, malheureusement, il a été le grand ordonnateur de cercueil. Oui. On peut dire que ce cercueil, il est sacrément en place.
Oui. Personnage inculte qui ne travaillait pas, qui faisait du commerce à partir du cognac, enfin... c'est pas le football, c'est le cognac.
Exactement.
Dans sa famille, que j'ai un peu connue en Charente, par accro, on trouvait extraordinaire qu'il ait fait tant d'argent sans travailler jamais. Ça en dit long.
C'est le grand art.
Bref, c'est le grand art d'un monde de débrouillards, quoi. Oui. Mais le monde de débrouillards, c'est pas un monde moral. Guylain Benassa.
Mais juste un petit mot, juste là-dessus, parce que souvent on le dit un peu en passant, que c'est un type qui n'aimait pas travailler. Il y a quand même une petite chose qui m'a frappé, c'est que les petits juristes dont je parle dans mon bouquin, qui sont les fameux vrais maîtres, lorsque dès les années 30-40, ils réfléchissent aux figures qui feront le monde de demain, ils brossent tous un tableau qui est en fait celui de Jean Monnet, c'est-à-dire un homme d'affaires, peu en prise avec la vraie politique, qui soit au-dessus des conflits et des querelles, qui en fait décide un peu pour tout le monde dans une assemblée technocratique, en sans lien véritable avec les peuples. Le portrait de Monnet, en fait, le Monnet dont vous parlez à l'instant, dont vous venez de parler, correspond assez bien à la figure emblématique et parfaite pour les gens qui rêvent
de l'homme contemporain.
D'un monde... Voilà,
et qui en plus s'appelle Monnet, c'est une dérision, il s'appelle Monnet en plus. Alors, il y a quand même une solution, d'abord vous citez, bravo Bernanos, l'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. J'ai quand même l'impression qu'en cette année 2026, tout s'effondre. Le mythe d'Israël s'effondre, le mythe de la supériorité de l'Occident s'effondre, le mythe de l'invincibilité des États-Unis s'effondre, le mythe européen est quand même en train de s'effriter, et notamment en Ukraine. Et d'autant que vous donnez la clé, Guylain Benassa, en rappelant cet épisode tellement intéressant, c'est un des moments forts de votre livre qui en compte beaucoup, c'est l'épisode de 65, La chaise vide, quand l'ami de
Dan
Brassier a décidé de pratiquer la chaise vide. Vous dites, mais c'était du bluff, parce que tous les juristes étaient rassemblés pour mettre en accusation la France et qui n'avait pas juridiquement le droit de faire ce qu'elle a fait. Et le compromis de Luxembourg qui en est sorti est un compromis qui juridiquement ne tient pas. C'est-à-dire que c'est tout à prendre ou tout à laisser. C'est-à-dire qu'il y a une solution qui est la sortie, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Il y a une solution, c'est sortir de l'Union européenne. Moi, je n'en vois pas d'autre. D'ailleurs, je la prends depuis 2006 et... Pardon ?
Alors, figurez-vous que je partage plus ou moins votre analyse, et pas pour la rejeter, c'est qu'en réalité, l'exercice de ce bouquin et la découverte de tous ces gens qui ont conçu le maillage m'amène à penser en réalité que le problème est moins l'idée du Frexit ou de la sortie ou pas de la sortie. L'idée centrale pour moi, c'est d'abord la liquidation de l'État profond. Parce qu'en fait, vous venez de dire à l'instant, et c'est très juste, que les juristes avaient prévu, d'accord, d'ailleurs, à l'époque, ils ont aiguisé les couteaux pour expliquer que De Gaulle n'avait rien à commander, n'avait aucune autorité pour faire ça, que le compromis de Luxembourg ne valait rien, d'accord. Ça veut dire que les petits sbires avaient déjà préparé le terrain pour se permettre de dire que De Gaulle avait tort et qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il a fait. Mais ça veut dire qu'en fait, pour moi, plus que la question du Frexit ou pas du Frexit, la question essentielle, c'est comment liquider une administration et une armée de gens qui en sont venus à fabriquer des leviers qui sont à la fois, ce que j'écris dans le bouquin, illégitimes et illégaux. Ça veut dire que moi, je pense par exemple que le principe de primauté, qui fait partie de l'état de droit européen et qui fait partie des concepts qu'on n'arrive pas à déroger, on est embassillé en quelque sorte à cause du principe de primauté, la primauté est illégale. Elle a été prise par une juridiction qui elle-même, à l'époque, n'envisageait même pas de faire un...
Mais cher maître, vous voyez bien que les questions...
Clairement, c'est...
Les questions de ce cher maître, malgré ma révérence pour le droit, vous voyez bien que les questions ne sont plus juridiques. Alors, nous allons reprendre toute votre œuvre lorsque vous viendrez à Paris, Guylain Bénessa. Je voulais signaler la parution à l'artilleur, nos chers amis de l'artilleur, de votre livre « Nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France ». Et revenez, appelez-moi quand vous revenez à Paris pour qu'on puisse prendre rendez-vous et nous poursuivrons. Merci beaucoup, pardon d'être court. Pardon, oui, Anne, qui veut ajouter un grain de sel. Mais même punition, il faut revenir, Anne, pour nous parler notamment de la cathédrale d'Angers. J'aime beaucoup toujours vous dénicher toujours les scandales. Il y en a en un mot, la cathédrale d'Angers.
On a demandé à un architecte japonais de protéger les sculptures colorées du porche de la cathédrale, et il a construit quatre arches.
Et on verra ce qu'il en est. Merci, cher Pierre, merci, cher Anne. À mercredi prochain. Domine sanctam fac galliam.
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur dirigé par Paul-Marie Couteau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 11 mars 2026 de 16h à 17h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.